Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneurs et de cyclosportifs. Bonne écoute. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast RCS. Alors, aujourd'hui, je suis tout seul aux commandes pour ce podcast. On va parler de l'étape du Tour, donc on va faire une petite présentation de l'étape et je vais répondre aux différentes questions qui ont été posées, notamment sur Instagram par rapport à cette étape. Donc, j'avais fait part à mes followers sur Instagram du fait que j'allais faire un podcast et vous avez été assez nombreux à me poser vos questions, donc j'essaierai d'y répondre du mieux possible avant de commencer ce podcast. J'aimerais introduire un nouveau sponsor, donc j'en ai deux nouveaux qui rejoignent mon aventure personnelle. Aventure pour ceux qui me connaissent pas, l'objectif c'est de rouler plus vite que des professionnels sans être professionnel. Non, je plaisante, mais voilà, pour m'aider dans ma pratique de cyclosportif et essayer de remporter les dernières épreuves qui me restent à cocher et à remporter sur les grands fondos à l'international. Donc ce sponsor, c'est Précision Hydratation. Voilà, j'en discuterai un petit peu plus longuement dans un prochain podcast. Donc c'est une marque Precision Fuel and Hydration, en anglais ça fait mieux, où ils font voilà de la boisson donc riche et bien dosée en glucides, des gels, aussi des packs avec des électrolytes, des compléments sodium, voilà, avec toute une, on va dire, une approche et qui se veut d'être très individualisée en fonction de vos pertes hydriques, de vos besoins ensuite en glucides en fonction des quantités dont vous avez besoin suivant vos séances. Et voilà, un focus qui est fait sur l'individualisation pour vous aider, vous accompagner dans vos objectifs et puis essayer de combler au mieux les besoins de chacun. Donc voilà, on en reviendra sur un prochain podcast où on détaillera un petit peu toute la science qu'il y a derrière cette marque et en quoi et comment cela peut vous aider. Donc voilà une transition pour moi, ça faisait maintenant 2-3 ans que j'étais avec Morten et voilà, je me réjouis de commencer d'utiliser cette marque. Voilà, et sinon qu'est-ce que je peux dire de plus en introduction? Je crois que c'est tout, voilà, personnellement j'ai eu un petit, t'es un peu malade là, pendant une ou... Dis bonjour, et puis après quelques petits soucis au niveau du dos et tout, donc là je remets gentiment en route, je vais décaler un petit peu la rentrée des courses, mais j'espère que voilà, tout maintenant va rentrer dans l'ordre pour pouvoir être fin prêt sur les premiers objectifs du mois de mai. Donc, passons au sujet du jour qui est l'étape du Tour. Alors, l'étape du Tour 2024. Donc cette année, départ de Nice. Nice qui devait déjà accueillir l'étape du Tour en 2020, quand le Covid a frappé. Ça avait été repoussé une première fois, enfin ça avait été repoussé l'année suivante. Et pareil, avec toutes les contraintes et les restrictions liées au Covid, finalement, il n'y avait pas eu d'étape du Tour à Nice. Donc finalement, quelques années après, Nice aura enfin le plaisir d'accueillir les participants de l'étape du Tour. Forcément, j'ai perdu ma page. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette étape avant de répondre à vos questions? Bon, bah déjà, c'est forcément une, Une catastrophe au niveau logistique, hein. Nice, col de la Couillole, pour ceux qui sont seuls ou qui ne sont pas dans un groupe ou accompagnés, voilà, bah bonne chance. non, ce qu'on, voilà, si on peut décrire un petit peu le parcours, donc il y a 140 km, 4600 mètres de dénivelé, répartis en quatre ascensions qui font toutes entre 15 et 20 km à peu près. Pas de gros pourcentage sur cette étape du tour comparativement à l'année dernière. Donc ça, c'est un point qui est plutôt, on va dire, positif pour beaucoup d'entre vous parce que, bah parce que y a pas, y a un petit peu moins de contraintes. On va dire au niveau du choix du braquet, et puis voilà, surtout quand on est dans des pentes comme Jouplane, bah des fois le braquet dans tous les cas reste trop important et on a des cadences un peu trop basses, et puis ça oblige certains à mettre le pied à terre ou avoir une fatigue musculaire un petit peu plus précoce, et ça rend tout de suite l'effort un peu plus difficile. Donc là, sur cette étape, pas de gros pourcentage finalement. C'est toutes des ascensions qui sont entre 6 et 7% de moyenne. L'ascension la plus difficile, bah, ça reste le col de la Couillole, la dernière ascension, qui est longue de 16 km avec une pente régulière à 7%. Donc voilà, une journée montée-descente, pas de plat ou très peu. La seule portion de plat qu'il y aura, ça sera au début, où il y a une quinzaine de kilomètres pour aller jusqu'à Blossac et d'entamer la première ascension, la première partie du col de Brosse, là, qui nous mène jusqu'à l'Escarène avant de sur le haut de l'Escarène avant de redescendre et puis de faire la dernière partie du col de Brosse de 10 km. Donc voilà, 15 km en faux plat montant. Après, on sait que sur l'étape du tour, et eh ben c'est toujours un peu compliqué les départs, de se dire qu'on reste à une allure planifiée, parce que, et ben parce que sur comme beaucoup de cyclosportives, les sas sont très souvent mal faits, et devant il y a devant vous il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à faire là, et du coup bah cette partie va être pour beaucoup l'occasion d'essayer de rattraper un petit peu les places perdues bêtement dans l'attribution des sas. Pour ceux qui ont la possibilité, bah, de partir dans un sas qui correspond à leur allure. Alors, c'est pas forcément partir dans le premier sas, hein, ça peut être un sas 6 ou 7 ou 8. En tout cas, d'avoir quelque chose qui va vous permettre d'être avec des gens qui ont à peu près votre niveau, bah là, vous allez pouvoir être déjà dans cette première partie, on va dire, en gestion, et essayer de conserver un petit peu des cartouches pour faire vos efforts dans les différentes ascensions. Donc, moi, avant de répondre aux questions qui sont, bah, en corrélation avec le parcours, ce que moi je peux voir et ce que vous pouvez aussi analyser de ce parcours, il y a pour moi bah, plusieurs points. Bon, déjà, voilà, c'est une étape qui est difficile, hein. Il y a un ratio kilomètres dénivelé qui est important. Il y a l'avantage, on va dire, par rapport à certaines étapes du tour, c'est qu'il n'y a pas de passage en altitude, en haute altitude, comme il y a pu avoir notamment il y a 2 ans, enfin, sur beaucoup d'éditions, où on passe les grands cols des Alpes avec pas mal de passages au-dessus de 2000 mètres d'altitude, et là où on sait que ça fait beaucoup de, enfin, peut y avoir vraiment beaucoup de différences, et il y a beaucoup de non, enfin, de personnes qui ne répondent pas forcément bien à ces efforts en haute altitude. Donc là, déjà, c'est, on va dire, un stresseur de moins, ou un stresseur qui n'est pas présent sur cette étape-là. Par contre, j'en vois plusieurs autres. Donc, bah, le facteur chaleur, comme beaucoup ont vu et posé des questions par rapport à ça. C'est sûr que Nice, au mois de juillet en 2024, bah, soit il y a un orage, du vent à 80 km/h et c'est l'apocalypse, soit il risque de faire 40 degrés. L'avantage, c'est que c'est quand même une région où il y a pas mal d'arbres, on va dire, surtout dans la seconde partie. Col de Brosse est très exposé, Turigny aussi, mais il y a quand même des passages voilà où c'est assez boisé. Donc ça pourra apporter un petit peu plus de fraîcheur que sur une portion voilà sans arbre, mais voilà, ça restera dans tous les cas chaud. Donc là on va parler tout à l'heure un petit peu de quel protocole on pouvait mettre en place pour l'acclimatation à la chaleur. Parler un petit peu aussi des choix à faire pour optimiser sa thermorégulation. Donc ça, on reviendra après. Et un autre point qui me paraît clé dans l'approche de cette étape, c'est qu'il va y avoir beaucoup de descentes, forcément, et beaucoup de descentes qui sont très techniques. Très techniques, les routes sont assez larges. Mais il y a beaucoup, beaucoup de virages. On sait que l'arrière-pays niçois, qui est une très belle région, a des très belles routes, mais il y a vraiment beaucoup de virages, beaucoup de courbes, et c'est pas voilà, c'est pas des descentes qui sont rectilignes. Donc ça demande d'avoir des compétences et un bagage technique qui va être développé au maximum, déjà d'une pour pouvoir récupérer dans les descentes, parce que sur une étape comme ça, si dans les descentes vous êtes crispé, que vous n'arrivez pas à vous ravitailler, que vous perdiez du temps et vous perdez le contact avec des groupes, déjà c'est dommageable pour la performance. Mais c'est vrai que aussi le fait d'être crispé, vous perdez de l'énergie et vous perdez la capacité, la possibilité de récupérer dans les descentes. Donc ça va, pour beaucoup, ça va être un point de travail assez intéressant et on va dire primordial. Je sais que il y a très peu de personnes qui font l'étape du Tour qui auront la possibilité d'aller faire des séjours, des stages dans les Alpes pour s'exercer dans ces descentes. Mais c'est possible de travailler sa technique. Travailler voilà l'aisance sur le vélo, la maniabilité par des exercices techniques que vous pouvez faire sur le plat. Donc c'est des exercices comme on peut faire dans les écoles de cyclisme avec des plots pour travailler voilà la maniabilité, la prise en main du vélo. C'est sûr qu'il y aura jamais, si vous entraînez à Nantes, ce sera difficile de pouvoir travailler votre technique dans des courbes à 50 ou 60 km heure ou de prendre des épingles. Mais par contre, vous pouvez déjà vous entraîner voilà, sur le travail de trajectoire, sur l'inclinaison du vélo, comment vous positionnez aussi sur le vélo quand vous prenez des virages, avoir déjà une vision de qu'est-ce qui est une bonne trajectoire pour différents types de virages, déjà de l'avoir en mémoire, de pouvoir le conscientiser. Et puis, voilà, lorsque vous serez sur le terrain, peut-être si vous arrivez la semaine avant, faire quelques descentes en travaillant déjà les points techniques sans chercher à aller vite. Et déjà, ça vous permettra d'être un peu plus relâché. Et déjà, si vous êtes relâché, que vous perdez pas d'énergie, ou en tout cas pas trop d'énergie dans ces descentes, ça sera déjà un très bon point. Donc, voilà. Après, forcément, comme voilà, il y a eu beaucoup de questions sur l'entraînement en amont, etc. Je vais pas trop aller là-dessus en détail parce que l'entraînement pour une étape comme ça va dépendre de plein de choses. Et chaque personne est différente, chacun a un profil physique, physiologique, technique différent, des données de résistance, d'endurance qui sont différentes, des objectifs aussi qui vont être totalement différents, des temps d'entraînement différents. Voilà, donc ça pourrait être finalement un podcast à lui-même de 1 heure, 1 heure et demie pour essayer de, on va dire, de balayer un petit peu tous les cas de figure. Et les différents profils qu'on pourrait rencontrer pour se préparer à cette étape, mais c'est pas forcément l'objectif de ça. Peut-être juste, je vais commencer par ça. Ça sera fait. J'ai eu pas mal de questions sur justement est-ce que vous devez travailler beaucoup votre FTP, votre second seuil, etc. Juste, voilà, comme j'ai souvent dit dans ces podcasts, et quand on fait des épreuves cyclosportives, c'est toujours, on doit adapter l'entraînement par rapport à la demande de l'épreuve. Et sur une épreuve qui fait 4600 mètres de dénivelé, il y a très très peu de coureurs qui vont passer du temps à FTP. Si, on va dire, si vous avez une bonne gestion, voilà, ceux qui sont peut-être dans les 10-15 premiers vont passer un petit peu de temps proche de ce second seuil, ou même au-dessus, des fois sur les faces pour faire la différence. Mais sinon, pour la majorité du temps, ça va se jouer beaucoup plus dans la durabilité, dans la capacité à maintenir aussi des efforts sous ce second seuil, entre le premier et le second, et à avoir une bonne efficience, avoir une capacité à maintenir des puissances qui vont être, on va dire, peut-être entre 80 et 90% de cette FTP, si vous la calculez déjà correctement. Et voilà, ça va plus être ça qui va compter, plutôt que d'avoir une FTP qui va être très très haute. Bien sûr, il va falloir le travailler, parce que forcément, si on augmente aussi cette valeur-là, bah, toutes les valeurs, et si on a déjà un bon maintien, ça va augmenter. Mais ça ne doit pas être le main focus de votre préparation. Alors, commençons par quelques questions. Je vais commencer par une question. J'ai eu deux fois la, trois fois la même question, tournée un petit peu différemment. Et la première, c'était par Aurélien Lyonnais. Y a-t-il des contrôles antidopage? Alors, est-ce qu'il y a des contrôles antidopage sur l'étape du tour? Eh ben, malheureusement, je n'en ai jamais eu sur cette course. L'année dernière, en France, sur les grosses, il y a eu, on était contrôlé à la marmotte, mais pas à l'étape du tour. J'aurais bien aimé, sur les dernières éditions. Voilà, j'aurais bien aimé. J'en dirai pas plus. Je rappelle que j'ai terminé deuxième de l'étape du tour il y a 2 ans, cinquième seulement l'année dernière. Mais voilà, j'aurais bien aimé. Donc j'espère qu'un jour ASO va mettre des contrôles antidopage sur l'étape du tour, parce que vu le nombre d'inscrits, vu les sommes que ça brasse, et vu aussi la notoriété qu'a cette course, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah, c'est une épreuve cyclo-sportive, c'est de l'amateurisme, etc. Oui, seulement quand on fait podium ou qu'on gagne l'étape du tour, on a une retombée qui peut être, je pense, bien plus grande que de gagner presque n'importe quelle course élite. Et donc juste pour bah, un petit peu pour voilà, donner du crédit aussi aux coureurs et à cette épreuve, ça serait bien. J'ai trouvé très, je trouve très très bien que maintenant Golazzo et les organisateurs de la marmotte imposent voilà, un contrôle antidopage à la fin de la marmotte, parce que voilà, c'est aussi bah, pour nous coureurs qui jouons devant pour ces épreuves, et qui mettons beaucoup de temps, d'énergie pour essayer de performer, bah, ça crédibilise nos performances, parce qu'il y a beaucoup de haters et des gens qui aiment bien critiquer. Donc voilà, ça nous aide à les faire taire, même si on s'en fout complètement. Mais voilà, et voilà, donc ça serait bien. Et puis même en tant que coureur, bah, sur certaines performances, ça nous aiderait à dire que on est sûr de passer, de fait niquer. Voilà, vous comprendrez ce que je veux dire par ce message. Donc pas de contrôle pour le moment, mais on ne désespère pas. Alors, pas mal de questions par rapport à la chaleur. Comment se préparer à la chaleur? Quelle stratégie adopter pour ne pas crever de chaud? Comment, voilà, comment fait-on pour se préparer à la chaleur? Donc, c'est sûr que la chaleur, ça va être c'est un stresseur qui est très très important, et qui risque d'être déterminant le jour de l'étape du tour. Donc, pour s'y préparer, bah, il y a plusieurs possibilités, et toutes les possibilités passent par de l'exposition à la chaleur. Si, je veux dire, si vous vous amusez à tout le temps aller rouler quand il fait plus frais, de choisir des parcours à l'ombre, vous n'exposez jamais votre corps à la chaleur et vous ne lui permettez jamais de s'adapter à ce stresseur. Donc, je sais que c'est l'étape du tour, ça arrive au mois de juillet. Mine de rien, c'est pas souvent qu'on a la possibilité d'être. Si vous travaillez la semaine, que vous avez juste les week-ends, des fois les premières grosses chaleurs arrivent que début juin, et puis ça reste un petit mois pour aller à l'étape du tour. Et en fonction, si vous roulez qu'une fois par semaine, que vous avez une vie de famille qui ne vous permet pas de rouler en journée, que vous devez partir tôt le matin, et que finalement vous roulez à la fraîche, et puis que la semaine vous faites des séances sur entraîneur, et bien finalement, même si c'est en juillet, vous arrivez peut-être avec un temps d'exposition à la chaleur lors de vos entraînements qui va être assez faible. Donc pour ça, il y a des stratégies, des protocoles qui existent pour s'acclimater à la chaleur, donc notamment sur entraîneur. Moi, mes conseils, ça serait d'essayer d'avoir une, pour avoir quelque chose de maximal, on va dire, ça serait d'avoir 8 expositions à la chaleur sur le dernier mois, donc 2 fois par semaine. Ce qui veut dire que quand on utilise cette stratégie d'exposition à la chaleur, de heat training, donc dans heat training, si vous recherchez un petit peu sur Internet, il y a plusieurs choses. Il y a pour l'acclimatation à la chaleur, donc mieux supporter la chaleur, il y a aussi des protocoles qui ont une visée un petit peu plus profonde, avec où on cherche des changements au niveau des paramètres hématologiques, un petit peu comme on fait quand on va faire des stages en altitude. Donc là, c'est encore un autre, déjà un protocole qui est beaucoup plus lourd, un autre objectif. Et voilà, on va pas forcément en parler, mais si vous recherchez sur Internet, vous pourrez avoir les deux, un petit peu les deux objectifs. Je bois un coup parce que là, je vais mourir. Donc, je reprends. Donc, par rapport à protocole chaleur, donc moi, ce que je conseillerais, c'est 8 expositions. 8 expositions, donc des séances d'1 heure. Donc l'objectif, c'est de s'habiller comme en hiver. Donc cuissard, forcément, c'est quand même plus simple. Jambière, donc, ou cuissard long, des surchaussures, maillot de corps long, veste d'hiver, caouet, un bonnet, des gants. Voilà. Et on va travailler. Alors, soit vous avez la possibilité d'acheter des capteurs pour mesurer votre température. Comme les capteurs corps qui se mettent au niveau de la peau et puis qui sont en mesure de détecter les températures un petit peu plus profondément sous la peau, et du coup vous indiquer la température et pouvoir gérer les séances par rapport à ça pour chercher certaines fourchettes de température. Sinon, le plus simple, c'est de faire confiance au RPE. Donc le RPE, c'est la perception d'exercice, la perception de l'effort. Donc on va la mettre sur une échelle de 0 à 10. Donc 0, c'est très facile, vous ne sentez rien, et 10, c'est la difficulté maximale. Donc voilà, c'est un effort qui est vraiment insoutenable et que vous pourrez tenir que encore quelques secondes. Donc ça, pour beaucoup, vous l'utilisez déjà sur vos séances, peut-être pour planifier aussi les intensités, pour contrôler les intensités. Donc ce RPE, on va s'en servir sur ces séances, et ces séances, on va essayer de faire au début qu'on n'ait jamais un RPE qui soit supérieur à 5 ou 6 sur 10. Donc on va, voilà, vous vous habillez chaudement, vous mettez surtout pas de ventilateur, vous commencez à pédaler une allure d'endurance très rapidement. Ça va devenir assez inconfortable. Vous allez être vers un RPE de 5-6, et puis ensuite, pour toute la durée restante de la séance, vous allez diminuer l'effort en fonction de votre perception, pour toujours garder la perception à 5 ou 6 sur 10. Et puis voilà, donc si, je sais pas, si vous commencez à 160 watts, 180 watts, et qu'au bout de 15 minutes, vous sentez que vous avez besoin de baisser de 10 watts parce que le RPE commence déjà à monter, bah vous baissez. Et puis même si vous devez finir la séance à 100 watts, et bah vous finissez la séance à 100 watts, mais on ne fait pas monter le RPE au début. Donc voilà, ça, vous allez voir que au bout déjà de 3-4 séances, vous allez voir que vous allez déjà avoir moins besoin de baisser la puissance, que vous allez être un petit peu plus à l'aise. Alors il faut faire très attention avec ces séances chaleur, parce qu'on se met quand même dans un état et dans un stress qui est assez important. Donc ça demande d'être contrôlé. Si vous commencez à vous sentir pas bien, la tête un petit peu qui tourne ou le cœur un peu qui s'emballe, top, tout de suite on arrête. Voilà, donc avant de faire ça, moi ce que je conseillerais quand même, c'est bah, d'aller voir quelqu'un qui, enfin voilà, de se rapprocher peut-être d'un entraîneur, de quelqu'un qui maîtrise, qui va déjà pouvoir vous aiguiller et vous orienter sur quelle puissance à tenir si pour commencer. Peut-être aussi, voilà, vous aiguiller avec des conseils sur si vous utilisez un capteur, capteur par exemple corps, quelle température pour vous. Peut-être faire en amont déjà quelques séances un petit peu plus courtes sur ça, mais voilà, en gros, après moi, je vous donne ce que les protocoles que moi j'utilise, ce que j'utilise aussi avec certains de mes athlètes, mais ça demande quand même d'être bien contrôlé. On va avoir des pertes hydriques qui vont être importantes, donc ça, pareil, vous pouvez le contrôler en prenant votre poids avant la séance et en prenant votre poids après. Généralement, on a une perte qui est entre 1 litre et 2 litres, donc après, il va falloir bien se réhydrater, voilà, apporter aussi un petit peu peut-être d'électrolytes, donc mettre en place une stratégie de réhydratation pour que dans les 24 heures suivantes on soit revenu à l'équilibre et puis que voilà, on n'ait pas ce soit pas déminéralisé et que on puisse poursuivre l'entraînement et les séances comme il faut. Donc voilà, ça c'est une stratégie qui marche très bien si vous n'avez pas forcément le temps de vous exposer à faire des sorties en milieu de journée où vous allez, voilà, vous entraîner des longues heures, 4-5 heures avec dans des conditions très chaudes. Donc ça peut être une très bonne chose. Et même si vous avez cette possibilité de vous entraîner dans des conditions très chaudes, voilà, peut-être mettre le focus une fois par semaine sur ce type de séance en plus dans la semaine. Voilà, tout en ayant bien aussi, comme je disais au début, à l'idée que quand on va faire ça, forcément ça va induire de la fatigue, donc il faut avoir une réflexion globale sur la stratégie d'entraînement. Si vous avez prévu une séance, enfin vous pouvez pas remplacer par exemple une séance de récupération par cette séance chaleur. Le stress pour le corps est beaucoup trop important et finalement c'est pas une journée de récupération. Donc ce qui veut dire qu'après les séances suivantes, voilà, doivent être réfléchies pour que vraiment ces séances chaleur ne soient pas préjudiciables pour votre préparation, la fin de votre préparation. Donc voilà pour la question de la chaleur. Donc j'avais aussi des questions donc par rapport aux descentes. Donc ça je l'ai abordé un petit peu au début. Donc ouais, il y en a pas mal qui demandent comment faire pour s'entraîner en descente. Il y avait aussi qui fait pour moi le parallèle des questions sur la stratégie pour s'alimenter. Et quand moi je vois les comment sont les descentes. J'ai aussi ça en tête de se dire, il faut sur ce genre de parcours et avec des descentes qui tournent autant, il faut penser que ce sera difficile de, même pour les bons descendeurs, de mettre la main à la poche dans les descentes. Donc il va falloir anticiper les ravitaillements et notamment les ravitaillements qui sont un peu plus solides que peut-être certains vont choisir pour les hauts. Pour les sommets de col, pour avoir le temps de manger et puis de digérer un petit peu mieux dans la descente, et puis privilégier les gels et les boissons en montée. Donc ça va être important parce qu'il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de moment finalement vraiment de répit autre les descentes, mais qui sont très tortueuses. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir prendre le temps de peut-être dans le dernier kilomètre de chaque col, ben de manger, d'ouvrir en tout cas vos barres, de commencer à manger pour que dès que vous arrivez sur le sommet, ben vous soyez les mains sur le guidon, prêt à faire la descente et à y enchaîner les nombreux virages qui va y avoir. Donc voilà, finalement la descente qui est la moins technique, je dirais, c'est la descente de la Colmiane, où il y a quand même quelques passages, ouais, il y a quand même quelques passages où pendant 300-400 mètres, il y a un peu plus, il y a un petit peu moins de virages. Donc elle tourne peut-être un petit peu moins, surtout au début, je crois, si je me souviens bien. Au début, il y a quand même quelques bouts assez droits, assez rectilignes, que des courbes, pas forcément des grosses épingles. Donc voilà. Et puis après, il y a un tout petit bout de vallée pour aller chercher le plié le pied de la couillole. Mais voilà, ça sera plus à ce moment-là le moment de prendre des gels et des choses qui vont aller directement dans le sang plutôt que d'avoir des choses trop lourdes et un peu plus importantes à digérer. Après, bah forcément, pour ceux qui vont prendre le temps de s'arrêter au ravitaillement, bah voilà, là, c'est totalement différent. Vous pouvez faire votre effort tranquillement dans les montées, vous arrêter en haut pour prendre le temps de manger et puis ensuite terminer de manger tranquillement et de descendre. Voilà. Après, j'ai eu des questions. Comment déterminer les zones pourcentage de FTP auxquelles idéalement il faudrait faire les montées? Eh bien, ça, c'est comme on disait, je dis au début, c'est assez difficile parce que ça va dépendre. Et ben ça va dépendre déjà voilà de votre du premier seuil finalement est-ce que vous avez entre les deux seuils est-ce qu'il y a un écart qui est très important ou pas donc ça va déjà définir un petit peu votre économie et les temps de soutien que vous allez pouvoir avoir dans une moyenne entre deux personnes. Donc ça va vraiment être à individualiser et à entraîner. Après, je dirais que pour la majorité des personnes, voilà, de partir sur une stratégie où monter les cols en tempo. Alors après, ben voilà, tempo pour certains, ça va être 75% de votre FTP. Moi, quand je dis FTP, c'est pas 20 minutes votre CP20 multiplié par 0,95. C'est CP30 multiplié par 0,93. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus représentatif de la FTP. Et après, par rapport à ça, ben, vous pouvez, même si vous ne faites pas de test de lactate, définir votre premier seuil où on va imaginer que votre premier seuil est à 75% de ce score de FTP théorique. Et voilà, on va dire qu'entre 75 et 85%, donc là ça peut varier, il peut y avoir vraiment facilement 20, 30, 40 watts d'écart en fonction de chacun. Mais voilà, un petit peu partir sur cette donnée tempo. Et puis après, ben, il faudra un petit peu jouer en fonction des sensations. Et justement, ben, on parlait de la chaleur. On sait que s'il y a la chaleur, ben, il y a une grosse partie de l'énergie qui va être dépensée pour refroidir le moteur. Donc, le rendement va être forcément affecté. Et vous ne pourrez pas forcément tenir autant de temps une puissance que si, s'il y a 40 degrés, que s'il y a 20 degrés. Donc, ça sera à vous de faire varier votre puissance en se basant, je pense que se baser sur le RPE, ça c'est une bonne un bon métrique pour pouvoir gérer les efforts. Voilà, en se disant bah il faut pas que je dépasse 6-7 sur 10 jusqu'au pied de la dernière ascension et probablement que les 6-7 sur 10 pour une puissance qui sera au col de brosse bah, deviendront déjà 8 peut-être 8, voire limite proche du 9 dans la troisième ascension, et probablement que ça sera proche du 10 sur la fin de la dernière. Donc voilà, pas de réponse, on va dire, très précise par rapport à un pourcentage de FTP, si ce n'est que voilà, d'essayer de se rapprocher de cette zone tempo. Après, c'est toujours pareil, ça c'est valable si vous faites, je sais pas, si vous visez top, je sais pas, dans les 3-4 centièmes peut-être, jusqu'au centième. Après, ben, plus vous allez vous rapprocher du top 50, 40, des fois, ben, faudra être avec des efforts qui vont se rapprocher un petit peu du second seuil, des efforts proches type SST, peut-être sur des passages, ben, s'accrocher un peu et être au-dessus du second seuil. Voilà, c'est toujours pareil, ça dépend de l'objectif. Est-ce que vous allez là-bas pour faire une place, viser vraiment une place, et auquel cas bah, il y aura des passages où il faudra pas compter les efforts et pas être forcément dans la gestion. Il faut toujours avoir de la gestion, mais il y a des moments qui sont voilà, à l'approche du sommet, si vous êtes un groupe de 40 personnes, et puis derrière le groupe est loin, ben, même si pendant 5 minutes il faut dépasser un peu la zone prévue, ben, peut-être que ces 5 minutes un peu plus fortes vous en feront gagner 7 ou 8 au final, parce que vous allez faire une descente avec le groupe, et puis que début du col aussi vous serez dans les roues. Voilà, donc ça c'est après à vous de voir en fonction de comment la course évolue. Ensuite, nouvelle question. Donc là, les questions que j'ai après, c'est par rapport qui m'ont été posées par rapport à ce que je vais faire en termes d'entraînement, quel développement je vais utiliser, etc. Donc déjà, la précision, c'est que je ne fais pas l'étape du Tour cette année, tout simplement parce que ça tombe au même moment que le Maratona des Dolomites. Donc voilà, même si l'étape du Tour, c'est une épreuve qui est très très cool, très cool à faire sur route fermée, c'est un petit peu le rendez-vous pour beaucoup de cyclosportifs français. Mais voilà, une fois qu'on a goûté au Maratona, à l'ambiance, à toute l'atmosphère qui règne pendant la semaine avant la course du côté de Corvara, et qu'on a fait aussi l'étape du Tour, le choix est vite fait. Et puis aussi d'un côté professionnel, je préférais proposer un déplacement pour les clients sur le Maratona, et proposer une expérience sur les 4-5 jours avant la course. Donc voilà, on va faire le déplacement avec une vingtaine de cyclistes qui ont envie de découvrir le Maratona cette année. Donc pas d'étape du Tour pour moi. J'espère que l'année prochaine ça tombera pas en même temps. En tout cas, je serai de retour sur l'étape du Tour, parce que je n'aurais pas trop envie de rester sur seulement une deuxième place sur cette épreuve. Donc voilà, donc comment tu organises ton ravitaillement? Tu pars avec deux gros bidons. Est-ce que tu as un assistant? Alors bah, c'est clair que d'habitude j'ai toujours des assistants, parce que quand on se déplace comme ça sur ces épreuves-là avec les clients, on a différents points de ravitaillement, généralement deux ou trois. Donc on a tout ce qu'il faut, et puis les assistants nous à moi et à tous les gens qui prennent nos packs et nos suivis sur les courses, ont la chance d'avoir les bidons préparés avec individualisés, et de prendre les bidons à la volée. Sinon, ce que je conseille, ben, déjà c'est sûr que sur ces épreuves-là, le gros problème, c'est déjà d'avoir un ravitaillement qui va être suffisant durant l'épreuve. Et on sait aussi que c'est à individualiser. Certains vont préférer, je sais pas, la boisson précision hydratation, d'autres la Mortaine, d'autres la SIS, d'autres ne digèrent pas d'Isostar, d'autres ne digèrent pas ceci, cela. Donc, sur les courses comme l'étape du Tour, les ravitaillements, c'est la foire. Déjà, il y a beaucoup de monde, donc déjà vous perdez beaucoup de temps à mettre votre vélo, à aller chercher. Vous n'êtes pas sûr de trouver ce que vous voulez comme ravitaillement. Vous n'êtes pas sûr non plus que les produits qui seront disponibles vont vous convenir. Donc moi, ce que je conseille par rapport à ça, c'est de partir avec trois bidons, donc deux gros, un petit que vous mettez avec votre boisson. Le petit, bah, vous le mettez soit dans votre dos, soit devant, voilà, dans une des poches ou juste sur le dos. Et puis au premier ravitaillement, bah, vous le mettez dans une poubelle. Mais déjà, vous avez 500 millilitres avec votre boisson et bien bien dosée. Et vous savez que c'est une boisson qui se digère bien pour vous et qui passe bien. Et puis après, bah, avec vos deux gros bidons, bah, voilà, vous avez déjà si vous avez deux fois 750 millilitres, vous avez 1,5 litre de boissons qui sont bien dosées pour vous et qui vous conviennent. Et puis ensuite, vous prenez, bah, vous préparez, soit vous avez, par exemple, si vous prenez la Mortaine, vous avez des sachets qui sont déjà faits, ou alors si vous avez d'autres boissons, bah, vous les pré-dosez dans des petits sachets que vous mettez dans vos poches. Et quand vous arrivez au ravitaillement, vous prenez juste de l'eau et puis vous faites votre mix, vous, avec votre boisson. Et puis voilà, c'est reparti après pour la suite de l'épreuve avec encore 1,5 litre de boisson que vous avez choisi. Donc voilà, et puis après, bah, sur les barres ou les gels, c'est pareil maintenant, enfin, si vous blindez quand même bien les poches, il y a la possibilité de faire la plupart du parcours, même si vous mettez 8 heures avec vos produits. Voilà, je sais pas, dans une poche, mais d'un maillot standard, on met facilement 8 à 10, 8 gros gels. Donc, si vous avez 8 gros gels bien tassés dans une poche, plus la boisson pour faire 4 fois 750 millilitres, et puis que dans l'autre poche vous remettez une ou deux barres, bah déjà vous avez une bonne partie de votre ravitaillement, et puis après vous pouvez compléter sur les ravitaillements avec des barres ou des gels de l'organisation si ça vous suffit pas. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions, en tout cas en majorité. Bon voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques pistes pour la préparation de cette étape du Tour 2024. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast, et puis d'ici là, roulez bien. Allez, à bientôt.